Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Un dîner au château du Clos de Vougeot, qui est un emblème de la Bourgogne viticole, une visite des hospices de Beaune et une décoration pas la moindre, celle de la Grande Croix de la Légion d'honneur. Angela Merkel est accueillie, on peut le dire, en grande pompe aujourd'hui par le président français Emmanuel Macron. Et pour cause, il s'agit de la dernière visite en France de la chancelière sortante allemande. Alors c'est l'occasion d'évoquer dans le débat les relations franco-allemandes, car en 16 ans de pouvoir, Angela Merkel aura connu 4 présidents français et son départ ouvre une période d'incertitude, d'autant plus dans un contexte d'élection présidentielle à venir en France. Alors à quoi faut-il s'attendre avec le successeur annoncé d'Angela Merkel, Olaf Scholz? À quoi ressemblent aujourd'hui les relations franco-allemandes? Est-ce qu'elles constituent toujours le moteur de l'Union européenne? Voilà nos questions ce soir. Soyez les bienvenus.
RFI.
Et nos 3 invités pour débattre ce soir. D'abord, à mes côtés en studio, Hélène Miard-Delacroix, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à Sorbonne Université. Face à vous, Marion Gaillard, bonsoir.
Bonsoir.
Historienne, spécialiste des questions européennes et des relations franco-allemandes et enseignante à Sciences Po. Et notre 3e invité en ligne avec nous, Paul Maurice, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur au comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour. D'abord, je me tourne vers vous, Hélène Miard-Delacroix. On en est où dans la relation franco-allemande aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire un rapide bilan? Parce qu'on l'a dit, c'est 16 années de pouvoir, mais des années Merkel, sur ce point-là, des relations franco-allemandes, l'évolution que les années Merkel ont apporté aux relations franco-allemandes.
Oui, alors c'est toujours un exercice difficile de raconter 16 ans d'une politique quand même très dense et très importante. Je pense qu'on pourrait dire, si on veut synthétiser, que d'abord la relation franco-allemande, c'était pas au départ la priorité naturelle d'Angela Merkel, mais ça fait partie de son devoir. Deuxièmement, elle avait parfaitement conscience du début à la fin de l'importance de cette relation, notamment parce que c'est une part de la politique européenne de l'Allemagne, et ça donc elle s'est inscrite dans une tradition et dans une certaine obligation. Et troisièmement, cette relation a pris de plus en plus d'importance. Alors après on pourra discuter des personnalités, des ententes de couple, mais parce qu'il y a eu tellement de crises qui ont marqué ces 16 années, entre crise bancaire, crise des réfugiés, crise du terrorisme, de la Covid, et puis le Brexit, qui a modifié un certain nombre d'équilibres à l'intérieur de l'Europe, et notamment les dernières années où l'on a des difficultés avec les partenaires de l'Est de l'Europe. Là, je pense que ça a pris une importance encore plus importante,
mais
encore
vous diriez, plus grande pour elle. Justement, vous diriez que les relations franco-allemandes ont progressé sous Merkel par rapport au chancelier précédent
Alors, je vais vous décevoir, mais elle progresse toujours. On a tendance à toujours mettre sous l'étiquette qu'il y a une personne qui marque une période. Mmh. Oui, sauf que c'est un flot qui n'est pas toujours tranquille et qui évolue sans cesse. Et c'est normal, comme toutes les politiques nationales et les politiques entre les différents pays et dans l'ensemble européen, bien évidemment, ça a évolué.
En tout cas, c'est un ton donné. Quel a été le ton Merkel avec la France pendant 16 ans? Alors évidemment, il a été évolutif.
Il a été évolutif, mais enfin, il y avait quand même une constante. Et là, Madame Merkel a donné un peu l'impression que les présidents français changeaient, mais à la fin, c'était toujours l'Allemagne, non pas qui gagne, mais qui est là, et c'était toujours Angela Merkel, avec son sourire, son amabilité, sa retenue, sa capacité à faire un petit trait d'humour, et en même temps, à parfaitement savoir quelles sont les lignes qu'elle ne dépassera pas. Et il semble qu'elle ait été une négociatrice dure.
Marion Gaillard, vous partagez ce constat sur le bilan Merkel justement dans les relations franco-allemandes?
Oui, tout à fait, je partage tout à fait ce qui a été dit, au risque de vous décevoir aussi.
On n'est pas obligé d'être en désaccord.
Voilà,
dans
exactement. Mais je voudrais juste rajouter qu'en plus des crises, il y a eu aussi peut-être les occasions qui ont soudé les couples, parce que c'est vrai qu'elle n'avait pas de tropisme francophile particulier, sans doute, mais il y a eu des occasions, c'est-à-dire notamment le centenaire de la Première Guerre mondiale, qui donnait des occasions de symboles, mais aussi les différentes commémorations du traité de l'Élysée. Et du coup, je crois que certains couples se sont un peu soudés autour de ces occasions, même s'ils n'avaient pas grand-chose pour s'entendre au départ. Hein. Donc ça, on peut noter ça. On peut penser, par exemple, à sa visite à Reims, aux côtés de François Hollande, en juillet 2012, pour commémorer les 50 ans de la visite de Konrad Adenauer. On peut penser, bien entendu, à toutes les cérémonies aux côtés de François Hollande pour le centenaire de la Première Guerre. Mais je pense à deux choses qui me semblent intéressantes. C'est lorsque elle est venue le 11 novembre 2009 avec Nicolas Sarkozy à l'Arc de Triomphe, c'était la première chef de gouvernement allemand qui venait pour commémorer cet armistice qui est quand même l'humiliation de l'Allemagne et le point de départ du diktat ensuite de Versailles. Donc c'était quand même très très symbolique qu'elle soit là. Et puis aussi à Rotonde, aux côtés d'Emmanuel Macron en novembre 2018 pour apposer une nouvelle plaque à côté de cette dalle très humiliante pour l'Allemagne. Donc il y a un certain nombre de symboles qui marquent, je rejoins aussi ce qu'Hélène Mire de la Croix disait, un approfondissement encore de la relation franco-allemande, parce que c'est le cas malgré tous les aléas au fur et à mesure des décennies.
Et approfondissement de la relation franco-allemande et également de l'Union européenne ou pas, Paul Maurice. Qu'est-ce que justement sur le plan européen les années Merkel ont apporté dans ces relations franco-allemandes? Vous avez rédiger un article Allemagne-Union Européenne, l'héritage ambigu d'Angela Merkel. Qu'en pensez-vous ?
Eh bien, merci. Je pense que c'est un héritage qui est vraiment ambigu, même si je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment. La méthode Merkel, finalement, c'est un peu être devant l'abîme et ne plus avoir le choix, mais ne pas anticiper forcément les problèmes à venir. On l'a souvent qualifié de chancelière de crise. C'est vrai, Hélène Mire de la Croix l'a rappelé, il y a eu un certain nombre de crises. Et si on prend la dernière, la crise économique et financière liée aux conséquences de la crise sanitaire de Covid, au début, il y a eu des tensions franco-allemandes très, très fortes. En mars 2020, il y avait des oppositions sur les corona bonds, il y avait des problèmes sur la mutualisation des dettes. Et finalement, progressivement, petit à petit, Angela Merkel s'est laissée convaincre que peut-être aussi pour dans l'intérêt de l'Allemagne, c'était une bonne idée de mutualiser les dettes. Et finalement, on retiendra ça. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est que c'est une très très bonne négociatrice, et c'est ça qu'il faut voir sur la suite du plan de relance européen qui a été décidé, enfin en tout cas présenté au départ par Emmanuel Macron et Angela Merkel le 18 mai 2020, c'est que pendant le Conseil européen de juillet 2020, qui a été très tendu, très long, pour faire adopter ce plan à l'unanimité, avec les États qui se disent frugaux, qui refusaient les dotations directes, elle a été une négociatrice fine et difficile, et surtout à l'automne 2020, c'est elle qui a fait l'intermédiation avec la Pologne et avec la Hongrie qui s'opposaient à l'adoption de ce plan de relance parce qu'il était conditionné à la question de l'état de droit. Donc elle a su aussi garder à bord, en tout cas ne pas abandonner les États, on va dire, illibéraux d'Europe de l'Est ou de l'Europe centrale, et donc elle n'était pas que dans le couple franco-allemand. Donc c'est ça aussi qu'il faut retenir, cette ambiguïté d'Angela Merkel à plusieurs échelles.
Alors vous avez souligné un point important, Paul Maurice, la mutualisation européenne des dettes. C'était effectivement quelque chose de très important dans ce plan de relance de 750 milliards d'euros qui a été annoncé pour relancer l'économie européenne après le Covid, à l'initiative évidemment de la France et de l'Allemagne. Cette mutualisation européenne des dettes, c'était une ligne rouge jusque-là pour Angela Merkel, c'était une volonté de la France. Est-ce que ça veut dire que c'est la France, désormais, avec le départ d'Angela Merkel, qui va avoir un petit peu la main sur ce couple franco-allemand?
Alors c'est très très difficile de dire ce qui va se passer. Déjà il faut attendre que le gouvernement allemand soit formé. Il est fort probable qu'il soit dirigé par Olaf Scholz, qui est actuellement encore ministre fédéral des Finances et qui semble-t-il a été très fortement présent pour pousser Angela Merkel et le gouvernement allemand en été 2020 à précisément faire cette proposition de 500 milliards qui a été en plus
Olaf Scholz, donc membre du SPD.
Voilà, membre du SPD et qui était donc dans la grande coalition, son ministre des Finances. Maintenant, c'est une longue histoire, vous savez, l'opposition française et allemande sur la mutualisation des dettes, c'est-à-dire, si on remonte un tout petit peu, la question est, lorsque l'Allemagne, dans le mouvement de la réunification, ou plutôt de la chute du mur, en décembre 89, a accepté, à l'époque c'était Helmut Kohl, de faire ce que l'on avait dit, c'est-à-dire l'union économique et monétaire, freiner un petit peu, a finalement accepté de sauter le pas. Mais l'Allemagne a gardé une réticence face à l'idée de créer aussi ce qu'on appelle un gouvernement économique et monétaire européen. C'est-à-dire, l'idée est toujours en Allemagne de garder au niveau national la souveraineté sur la gestion du budget et l'acceptation, le feu vert qui a été donné par l'Allemagne donc en 90, hein, et puis qui a abouti à Maastricht en 92, était de de dire d'accord, nous faisons une monnaie commune, mais il faut une banque européenne indépendante comme la Bundesbank était, et il faut absolument que les États ne puissent pas utiliser la monnaie comme et donc le budget comme un moyen de la politique. Et ça, c'est une ligne qui remonte extrêmement loin à l'après 45. Donc
oui, parce que pour synthétiser en une phrase, le couple franco-allemand, il y a le leadership politique pour la France et la puissance économique pour l'Allemagne. Historiquement, c'est ainsi qu'on résume un peu la relation franco-allemande, en tout cas les forces de chacun.
Oui, mais non, ce que j'explique, c'est... Oui, on peut dire ça, si vous voulez, mais ce que j'explique, c'est qu'il y a en Allemagne, dans la conception de la construction européenne, et là, Marion Gaillard le précisera encore plus que moi, de l'union économique et monétaire, l'idée qu'il fallait d'abord que les économies convergent avant de couronner le tout par la monnaie, et c'est l'autre vision, la vision française, qu'on a appelée monétariste, qui l'a emportée en poussant à faire une monnaie commune, et en se disant, une fois qu'on aurait une monnaie commune, les économies vont se rapprocher. Et depuis, l'Allemagne freine toujours en se disant les autres vont nous contaminer d'une certaine façon notre politique économique et notre gouvernance, et donc ont toujours refusé ce modèle de mettre les dettes en commun et d'avoir un vrai budget géré en commun.
Marion Gaillard, ça c'est une différence essentielle dans la relation franco-allemande, la question des finances, parce que bon, pour faire simple, l'orthodoxie budgétaire, c'est plutôt l'Allemagne et c'est pas trop la politique de la France. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va être un obstacle dans les relations franco-allemandes après Merkel ?
Oui, et puis ça a été, comme ça vient d'être dit, ça a été toujours un obstacle en réalité, mais je crois que ce qui fait la force du couple franco-allemand, c'est justement, la plupart du temps, d'arriver à surmonter les désaccords. Hein. Mitterrand disait, on mesure la solidité d'un couple à sa capacité à sortir des crises, je crois que c'est vraiment ça, le couple franco-allemand, et on a oublié de rappeler tout à l'heure, en parlant de symbole, le traité d'Aix-la-Chapelle de 2019 aussi, hein, qui était justement ce remariage, à nouveau la confirmation des vœux,
ça,
comme aux
États-Unis.
C'est
cité comme l'un des moments forts dans la relation franco-allemande sous Merkel.
C'est un moment très fort, qui n'était pas forcément, de mon point de vue, je ne sais pas ce qu'en pensent mes deux collègues, mais très utile au final sur le plan juridique. Mais en tout cas, ça a le mérite de susciter des embrassades et des symboles, c'est très bien. Mais du coup, ces traités, mine de rien, et notamment le traité de l'Élysée, permettent de s'apprivoiser en réalité, d'apprendre à se parler, à surmonter ces désaccords qui, comme vous le disiez, sont là dans tous les domaines en réalité. On est très différents sur plein de choses. Et justement, on arrive par le dialogue à proposer des choses en commun. Je voudrais juste dire sur la mutualisation des dettes, il faut faire quand même très attention parce que je ne veux pas du tout minimiser le plan de relance qui a été décidé pour faire face aux effets du Covid, mais il ne s'agit pas de rebond comme on en avait parlé au moment de la crise grecque, c'est-à-dire il ne s'agit pas de mutualisation des dettes passées, il s'agit de s'endetter en commun pour un plan de relance bien précis. Et pour répondre à votre question, là-dessus, ça va coincer probablement avec la nouvelle coalition et nos amis libéraux qui ne veulent pas entendre parler d'une union de transfert et qui ont bien précisé que c'était vraiment juste une fois, c'est one shot.
On va parler évidemment de la nouvelle coalition parce qu'elle va donner le ton des relations franco-allemandes, mais vous avez cité le traité de l'Élysée. C'était en 63.
Oui.
On est en 2021. Oui. Sur cette question, on n'a pas évolué. Sur cette question des finances, sur cette...
Comment vous voyez, alors ils ont évolué un peu puisqu'elle a fini par accepter au moins quelque chose dès le mois de mars 2020, avril 2020. On a parlé de Corona bon, hein, et ça faisait sauter les Allemands au début. Et finalement, ils ont fini par l'accepter. Comme le disait Hélène, au départ, la monnaie unique, bon, ils étaient un petit peu réticents. On peut les comprendre en même temps. Hein, quand on a le Deutsche Mark et qu'on vous dit vous allez abandonner votre Deutsche Mark pour aller faire quelque chose avec la drachme, la pesetas, le franc, la lire, ça fait pas rêver, hein, évidemment. Donc ils abandonnent au fur et à mesure un certain nombre de choses, de leurs dogmes, mais ça fait partie de leur ADN. Hein, l'obsession de l'inflation, vous disiez, on est en 2021, ça date de 1923, ça va faire un siècle, il est peut-être temps effectivement de passer à autre chose, mais ils ont du mal. Comme nous, on a d'autres obsessions, chacun ses obsessions et on continue quand même.
Paul Maurice, chercheur au comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI, Marion Gaillard a évoqué la coalition, la future coalition en Allemagne, donc feu tricolore, c'est comme ça qu'elle est surnommée, hein, donc avec le SPD et le futur chancelier annoncé Olaf Scholz, les Verts et les Libéraux. Qu'est-ce qu'il faut attendre de la future relation franco-allemande avec cette future coalition ?
Alors, il faut attendre beaucoup de choses, mais pas grand-chose, parce que finalement, comme l'a dit Hélène Mire de la Croix tout à l'heure, les choses évoluent de toute façon progressivement. Donc, il y a une continuité dans les relations franco-allemandes. Et alors, on a beaucoup parlé de couple franco-allemand, c'est vrai, on parle de Merkel, etc., mais il y a beaucoup de choses dans le domaine franco-allemand, et Marion Gaillard a rappelé le traité d'Aix-la-Chapelle, qui ont lieu à l'échelle institutionnelle inférieure, les parlementaires, les entreprises, qu'il ne faut pas oublier, les régions, etc. Donc, il y a des choses qui sont en place et qui vont continuer. La question qui va se poser, c'est certes le chancelier, probablement Olaf Scholz, mais il y a une chose dont on ne parle pas du tout en Allemagne en ce moment, on parle du ministère des Finances, là ça discute fort là-dessus, mais on ne parle pas du tout du ministère des Affaires étrangères.
Déjà on peut parler du ministère des Finances, parce que c'est vrai que c'est important, ce serait potentiellement chef de file des libéraux, monsieur Lindner, et qui... Alors lui, pour le coup, est partisan de l'orthodoxie budgétaire. On reparle des finances.
Oui, alors c'est aussi politique pour Christian Lindner, parce qu'il a fait toute sa campagne sur la baisse des impôts, sur l'orthodoxie budgétaire, et donc avoir les finances, c'est une manière aussi de répondre à son électorat. Donc c'est là où il pourra le mieux affirmer la doctrine libérale actuelle. Mais je disais ministère des Affaires étrangères parce que en général, il revient au partenaire, on va dire junior d'une coalition, et c'est un poste de prestige. Ça a été souvent celui de vice-chancelier. Alors c'était pas le cas dans la dernière coalition, mais c'est un poste important et auquel est lié le poste de ministre d'État pour les affaires européennes. Donc il y a toutes ces questions qui se posent, même s'il y a un contrat de coalition, la personnalité peut influencer aussi la relation franco-allemande.
Hélène Mire de la Croix, vous souhaitez réagir justement sur cette composition, cette coalition concernant évidemment, et c'est ce qui nous intéresse ce soir, les relations franco-allemandes.
Oui, alors je crois que, comme toujours, et c'est pour ça que nous continuons les unes et les uns et les autres à nous intéresser à cette relation bilatérale en Europe, c'est que c'est toujours pareil et en même temps c'est à chaque fois différent. Parmi les futurs, si ce n'est des accords, au moins les points où ça va un peu grincer, en dehors des finances, il y a aussi des vieilles questions sur lesquelles la France et l'Allemagne ont toujours occupé des positions à peu près orthogonales.
Hein,
on a parlé des finances, il y a l'énergie, le mix énergétique. On n'arrête pas de dire en France actuellement que finalement le nucléaire ce n'est pas si polluant que ça puisqu'il y a peu d'émissions de CO2, ce qui fait hérisser les cheveux sur la tête des Verts qui vont faire partie de la coalition. De même que le président Macron aborde la question de la défense européenne de manière relativement directe là maintenant, surtout depuis que un certain nombre de signaux ont été envoyés de Washington, selon lesquels l'OTAN était certes toujours existant, mais que la priorité des priorités des États-Unis actuellement était beaucoup moins de faire attention aux partenaires européens et plutôt de se fixer sur des dangers qui sont dans le Pacifique. Et là, de même, il y a une probable proposition française de pousser d'accélérer, si l'on veut, ou d'être inventif sur des systèmes de défense communs. La question des armements communs, on a un avion très très subtil qu'on est en train de construire. Est-ce qu'on va le vendre à l'étranger ? À qui va-t-on le vendre ? La question des ventes d'armes construites en commun, c'est aussi un serpent de mer entre les Français et les Allemands. Il va y avoir de quoi quand même être un petit peu en désaccord.
Marion Gaillard, trois points importants qui ont été soulevés par Hélène Mire de la Croix, effectivement, et qui font les différences aujourd'hui entre la France et l'Allemagne, avec cette future coalition attendue, la question du nucléaire, donc les Verts qui sont membres de la coalition qui veulent en sortir, la France qui souhaite le développer, la question de la défense. Par exemple, d'ailleurs, il y a eu récemment un accord préliminaire tripartite qui a été annoncé, qui doit définir le futur accord de cette coalition en Allemagne. Aucune mention à l'Europe de la défense, c'est une notion chère à l'exécutif français. Et le troisième point, la question des armes, notamment l'exportation des armes, que l'Allemagne souhaite restrictive, et c'est un modèle pour la France, l'exportation des armes. Marion Gaillard, est-ce que c'est d'augure à freiner le développement du couple franco-allemand, et est-ce que le couple franco-allemand existe encore aujourd'hui tel qu'on l'appelle ?
Oui, je crois qu'il existe encore aujourd'hui. À chaque fois, on annonce sa mort. À chaque fois, il résiste. D'abord, il y a toujours ce truc de vocabulaire. Nous, on parle de couple. Ils parlent pas de couple en Allemagne. Ils parlent de relation ou d'amitié. C'est nous qui parlons de couple. Et je dis toujours que je trouve que cette métaphore est très, très bien parce que justement, c'est un mariage de raison. Il y a rien qui dure plus que la raison. Ça dure beaucoup plus que l'amour, la raison, puisqu'on sait, l'amour dure 3 ans. La raison dure depuis plus de 60 ans maintenant. Donc finalement, je crois que ce couple, il est amené à durer. Il connaît des aléas. Il y a effectivement la question de des exportations d'armes qui est très très sensible entre d'un côté la France et de l'autre côté la gauche allemande. Ça, c'est très clair. Sur l'armée, Là, les libéraux peuvent être l'allié d'Emmanuel Macron parce que dans leur programme électoral, dans leur plateforme électorale, il y avait la mention d'une armée européenne. Après, la question de toute façon, qui toujours me fait sourire, c'est qu'est-ce qu'on met derrière ? Je ne sais même pas si le président français, c'est vraiment lui-même ce qu'il met derrière la notion d'armée européenne. Et je ne sais pas ce que veulent les libéraux non plus. Mais en tout cas, le mot est lancé dans le programme des libéraux. Donc ça, ça peut être un point de rapprochement. Bon, ensuite, moi, je crois que souvent, on en fait beaucoup et qu'au final, on s'inquiète et qu'il va se passer ni plus ni moins que ce qui se passe depuis 50 ans. C'est-à-dire qu'il y aura des disputes, des désaccords, des personnalités qui s'entendent plus ou moins bien et qu'au final, on va continuer. Voilà, c'est ça qui va se passer. Et peut-être que le plus dangereux pour le couple franco-allemand n'est pas ce qui est en train de se passer en Allemagne, mais ce qui va se passer dans quelques mois en France, qui sait.
Alors, justement, on va en parler. Hélène Mire de la Croix, après je voudrais interroger Paul Maurice.
Je suis tout à fait d'accord avec le fait que, en effet, ça va continuer, etc. Il n'empêche que si on a un regard un petit peu historique, il y a quand même eu des phases où des décisions ont accéléré un approfondissement. Oui. Et ça, de ce point de vue, la relation Kohl-Mitterrand dans les années 80, avant la réunification, à partir de 84-85, il y a vraiment une décision vraiment commune de mettre en place des dispositifs de non seulement de consultation, mais la brigade franco-allemande est à chaque fois précurseur pour des projets européens et des progrès européens. Ça, sans vouloir être trop désagréable, pendant l'époque de Merkel, il n'y a pas eu de sa part cette disposition à avoir un vrai projet.
Et est-ce que la future coalition vous fait dire qu'on peut s'attendre ?
On va voir.
D'accord.
Parce qu'il y a eu des phases où c'était boosté, il y a aussi eu des phases d'endormissement, hein, parce que la phase Chirac-Schröder, il n'y avait pas grand-chose non plus. Hein, c'était très très mou, à la fois du point de vue du couple et du point de vue de l'Europe surtout. Hein.
Paul Maurice, est-ce que les désaccords entre la France et l'Allemagne sont plus importants aujourd'hui qu'avant ?
Sur la question de la défense, pour revenir là-dessus, en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a un débat en Allemagne. Marion Gaillard l'a rappelé. On a au sein du SPD, le parti du futur probable chancelier, on a une aile gauche qui est complètement opposée, par exemple, au partage nucléaire, c'est-à-dire au fait que les avions de la Bundeswehr, de l'armée allemande, puissent transporter les bombes atomiques américaines pour les larguer en cas de conflit. Et c'est ça qui pose aussi problème, et Hélène Delacroix l'a rappelé, sur l'avion de combat franco-allemand, le SCAF, c'est la question de l'utilité qu'on en a. À quoi sert l'armée allemande ? À quoi sert l'armée française ? Pas du tout à faire la même chose. L'armée allemande, elle ne sert pas à faire la guerre. En tout cas, elle n'y arrive pas. Elle est sous-financée. Et il ne faut pas oublier, quand on parle d'armée
européenne... Mais ce n'est pas leur
objectif. Ce n'est pas leur objectif, mais c'est le principe d'une armée. Mmh. C'est qu'à un moment, on doit se préparer à faire la guerre, même si on ne la fait jamais. L'armée européenne voulue par les libéraux, c'est bien, c'est vrai, ils rappellent une armée européenne, mais les libéraux sont attachés à la constitution allemande, c'est-à-dire qu'ils veulent une armée parlementaire. Une armée dans laquelle chaque intervention est présentée au Bundestag, il y a un vote nominatif et tous les ans on recommence, on revote. En France, c'est quelque chose qui n'arrive pas. Donc même si on est d'accord sur le principe, après sur le fait d'avoir une armée parlementaire contrôlée par le Parlement européen, je ne suis pas sûr qu'en France on soit d'accord pour avoir ce type d'armée. Et après, il y a 25 autres pays à convaincre qu'il y a un modèle d'armée européenne. Donc il y a toutes ces échelles de débat et c'est pour ça qu'on a deux problèmes principaux, un problème stratégique mais qui est global, on a rappelé la relation transatlantique à laquelle l'Allemagne est attachée, une position aussi différente envers la Chine, envers la position des États-Unis dans l'Indo-Pacifique, et après un problème de débat interne au sein des différents partis.
Alors on a vu les divergences franco-allemandes, elles sont importantes, elles sont intéressantes. Est-ce que la relation franco-allemande est aussi essentielle qu'avant pour le développement de l'Union européenne aujourd'hui ? Hélène Mire de la Croix.
Moi, je dirais oui.
Est-ce que c'est toujours ce moteur, alors, ce poids lourd ?
En France, on dit couple, on dit moteur. Certains disent c'est très très mécanique le moteur. Il y a un côté, on embraye, on passe la vitesse et puis derrière ça va suivre. C'est-à-dire que l'ensemble,
on donne l'impulsion,
du petit chemin. Alors voilà, je pense que les impulsions c'est plutôt une approche plus importante, plus intéressante. Il y a une donnée quand même. Je pense quand on mesurera la portée dans quelques années, c'est le départ des Anglais. Les Anglais ont, depuis qu'ils ont la première fois claqué la porte, enfin refusé d'entrer au moment de Messine, enfin au moment des traités de Rome en 57, puis après quand ils essayaient d'entrer et que le général de Gaulle disait non, il n'est pas question qu'ils entrent puisque c'est une île, ils ont quand même ralenti beaucoup le processus. En même temps qu'ils ralentissaient, le fait qu'ils soient là comme un peu dérangeant a poussé les Français et les Allemands dans les bras l'un de l'autre, si on peut dire les choses comme ça, pour essayer d'une force de proposition. Pensons par exemple, je ne sais pas, à Schmitt et Giscard, avec la proposition du SME, mmh. Auquel les Britanniques ne voulaient pas adhérer. Donc, je pense que c'est difficile pour le moment de mesurer à long terme, ou au moins à moyen terme, les effets de la sortie des Britanniques, qui était quand même le troisième grand, si l'on peut dire, en Europe. Alors, il y a des projets pour monter, pour tirer vers le haut, l'Italie. Vous le savez peut-être, il y a un projet de traité bilatéral franco-italien, de dispositifs comme on en a avec les Polonais, France-Allemagne-Pologne, là avec France-Allemagne-Italie.
Alors, l'Allemagne est d'or, parce que la France, effectivement, se tourne vers l'Italie, vers l'Espagne aussi. Oui. Ça veut dire que finalement, le couple franco-allemand, il est moins indispensable, moins incontournable qu'avant en Europe.
Mais on n'est pas obligé d'être à deux. On peut avoir des constellations de forces additionnées.
Et concrètement, à quoi ça va ressembler ce couple franco-allemand en Europe, avec toutes les inconnues qui s'annoncent? Donc on n'a pas encore de chancelier en Allemagne, après 16 années d'Angela Merkel au pouvoir, qui connaissait donc ses relations franco-allemandes, qui était un personnage incontournable. On va avoir quelqu'un de nouveau, Olaf Scholz sans doute, et avec une période d'incertitude en France, puisqu'il y a la campagne présidentielle qui s'annonce, avec l'élection l'an prochain. Ajouté à cela, la France qui va prendre la présidence tournante de l'Union européenne au 1er janvier.
Ouais. Peut-être là juste en un mot, je pense que l'incertitude sur Olaf Scholz, si c'est en effet Olaf Scholz qui est chancelier, ça va plus dépendre des compromis qu'ils auront trouvés dans leur contrat de coalition que de Olaf Scholz lui-même, parce que il est pas tombé de la dernière pluie, enfin il participe quand même au gouvernement fédéral depuis un petit moment et il est parfaitement au fait de la façon dont ça fonctionne et des lignes rouges des uns et des autres. Donc je pense pas que ce soit à sa personne que ça tienne. Après ça va dépendre en effet des résultats de la présidence en France. C'est complètement bouleversé et à ce moment-là, il faudra des mois pour pouvoir mettre en place une relation qui fonctionne bien, soit les choses continuent comme elles sont et à ce moment-là, on aura des deux côtés des partenaires qui sont prêts à continuer sur le chemin.
Marion Gaillard, les mois qui s'annoncent sont quand même remplis d'incertitudes.
Oui, comme je le disais, surtout par rapport à l'élection française, même si aujourd'hui... On a l'impression, comme ça, en France, que le plus probable est que les choses continuent comme elles sont, comme vient de le dire Hélène Mire de la Croix, pour le dire de manière elliptique. Mais évidemment, il y a des risques. On se souvient qu'en 2017, l'Europe regardait effrayée les élections présidentielles françaises. Évidemment, il y a des scénarios qui doivent faire frémir en Allemagne aujourd'hui pour les mois qui viennent en France. Donc ça, c'est pour moi une grosse incertitude. Après, le plus probable étant quand même sans doute que rien ne soit très bouleversé en France.
Avec donc Emmanuel Macron qui serait réélu.
Voilà, ou quelqu'un qui vienne de Les Républicains par exemple. On n'est pas dans un séisme comme on a pu l'envisager en 2017. Donc, a priori, les choses vont se mettre en place aussi. Bien sûr, évidemment, s'il y a une continuité en France, le couple, parce que Olaf Scholz, effectivement, n'est pas né de la dernière pluie, il est là et il a beaucoup œuvré pour le plan de relance. Donc, il sait à quoi s'attendre.
Mais il n'a jamais été chancelier. Encore une fois, il succède à une personne qui était depuis 16 ans au pouvoir.
Oui, mais je pense, bien sûr, ça c'est sûr.
Qui a connu, on l'a dit, 4 présidents français.
Oui, bien sûr. Non, mais ça c'est évident que la continuité, elle a eu le temps de s'y faire. Mais en même temps, bon, on a tendance, parce qu'elle part à glorifier le bilan, il y a quand même eu beaucoup de couacs. Il faut pas l'oublier, elle a aucune vision pour l'Europe, elle a réagi, comme ça a été très bien expliqué, elle a réagi aux crises, elle a rien anticipé. Il y avait ce mot de Nicolas Sarkozy qui était assez drôle, mais qui reflétait bien ça, c'était la France agit, l'Allemagne réfléchit. Bon, alors c'est vrai que Nicolas Sarkozy a tendance à agir et surtout peut-être à s'agiter beaucoup aussi.
C'est un bon résumé de la relation franco-allemande.
Mais en ce moment, oui, c'est un assez bon résumé, même pour Emmanuel Macron, je crois que... Voilà, ils vont trouver leur marque. Ça prendra du temps s'il y a quelqu'un de nouveau en France. Ce sera plus rapide si Emmanuel Macron reste. Mais je crois que finalement, ça perdurera. En revanche, je rejoins aussi ce qui a été dit, c'est que je disais tout à l'heure, ça perdure, mais il y a des moments où ça va beaucoup moins bien. Et quand ça va moins bien, eh bien, les autres sont déçus. C'est-à-dire que moi, je crois toujours quand même à cette force motrice ou d'impulsion, parce qu'on a tendance à dire ils en font trop, puis quand ils font rien, tout le monde dit, bon, bah alors qu'est-ce qu'ils font, hein? Il serait temps qu'ils fassent des propositions. Donc en réalité, ce couple, il est attendu comme la force d'impulsion en Europe. Ça veut pas dire qu'on peut pas être 3, qu'on peut pas être parfois 4, mais globalement, il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit efficace, sinon il se passe pas grand-chose en Europe.
Et là, le couple franco-allemand indispensable, on l'a bien compris, en Europe. Merci beaucoup, on terminera par ces mots, Marion Gaillard, historienne, spécialiste des questions européennes. européenne et des relations franco-allemandes, enseignante à Sciences Po, auteur du livre Union européenne, institutions et politique. Hélène Mire de la Croix, merci. Professeur d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à Sorbonne Université, co-auteur du livre Ennemi héréditaire pour l'interrogation, un dialogue franco-allemand. Merci Paul Maurice, chercheur au comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI. C'est la fin de ce débat du jour. Merci de l'avoir suivi sur RFI.